Touchez-le, mon cœur soupire, avec toi de jour en jour. Avec toi de je désire le moment de ton retour. Je
quelques passages déjà dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Pierre déjà, au premier chapitre de la première épître de Pierre, au verset 8, il est question donc de Jésus-Christ, lequel, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez, et croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable, et glorieuse. Dans la première épître de Jean au chapitre 3, le verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. » Un troisième passage dans le second chapitre de l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, au milieu du verset 8. « Maintenant, nous ne voyons pas encore que toute chose soit assujettie à Jésus, mais nous voyons Jésus, qui a été fait un peu moindre que les anges, à cause de la passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur. » J'en reviens donc à cette première épître de Pierre, premier chapitre, verset 8. Nous avons chanté dans notre cantique de voir Jésus face à face. Quand l'apôtre Pierre écrit cette épître, il l'adresse à des Hébreux de la dispersion, c'est-à-dire de tout le bassin méditerranéen, qui avaient été convertis à la parole de Dieu et qui étaient devenus chrétiens. Et il pouvait y avoir dans ces diverses assemblées qui s'étaient ainsi formées, ce complexe vis-à-vis des apôtres qui les enseignaient, et en particulier l'apôtre Pierre, que eux, au moins, ils avaient vu le Seigneur. Pendant 3 ans et demi, ils avaient suivi le Seigneur dans son ministère, et puis ils l'avaient vu rejeté, ils l'avaient vu mis à mort, ils l'avaient vu ressuscité. Et ils pouvaient faire ce complexe que nous aurions aimé voir cette période-là et assister de nos propres yeux. Et n'est-il pas monté au cœur de l'un de l'autre? Par exemple, dimanche matin, quand nous sommes rassemblés autour du Seigneur, partageant le repas du Seigneur, prenant part au pain, prenant part à la coupe, de nous dire comme les choses devaient être tout autres ce soir-là, où pour la première fois, le Seigneur était au milieu des siens, présent physiquement au milieu des siens, qu'ils le voyaient rompre le pain, qu'ils entendaient sa propre voix. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang qui est versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et l'on se dirait volontiers, ah, si le Seigneur était physiquement présent, une fois seulement, au milieu de nous, quel réflexe ce serait pour chacun d'entre nous, et quel encouragement pour ensuite l'attendre quand il voudrait venir à son heure. Ces pensées-là ne sont pas récentes, et nous pouvons penser que ces croyants d'autrefois l'avaient déjà. Alors, il est très rassurant de lire ce que l'apôtre Pierre vient leur écrire. Il leur dit bien ceci, Jésus, vous ne l'avez pas vu. Et un peu plus loin, il dit, quoique maintenant, vous ne le voyez pas. De vos yeux de chair, vous ne l'avez pas vu. Et maintenant, quand vous vous rassemblez, de vos yeux de chair, vous ne le voyez pas. Mais ce qu'il exprime là, il l'exprime dans le souvenir de ce qui s'est passé pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui l'ont suivi. Nous ne doutons pas que pour l'apôtre Pierre, en écrivant cela à ses croyants, surtout quand il vient leur dire « ce n'est pas l'essentiel ». Il y a cette pensée « vous voyez, mes frères bien-aimés, je vous écris cette lettre parce que moi j'ai vu le Seigneur ». Parce que d'autres disciples, mes condisciples, ont vu le Seigneur. Nous l'avons vu longtemps, jour après jour. Nous avons vécu avec lui. Nous étions là à ce dernier repas. Et malgré cela, l'un d'entre nous l'a trahi, Judas. Un autre de mes condisciples, Thomas, qui n'était pas là au premier repas qui a suivi la résurrection de notre Seigneur, s'est montré incrédule. À moins que je ne voie les blessures de ses mains, à moins que je ne mette ma main dans le trou de son côté, je ne croirai point. Quelle parole dure! Et moi, qui vous écris, j'ai renié mon Seigneur et Maître. J'ai dit à 3 reprises, je ne le connais pas. Non, je vous dis, je ne le connais pas. Alors, vous voyez, l'essentiel, on peut voir et pourtant ne pas croire. On peut voir et pourtant renier. On peut voir et devenir en un moment incrédule. Il y a une part que vous avez. Vous ne le voyez pas, mais il y a 2 choses que je sais que vous avez. Alors, quoique vous ne l'ayez pas vu, verset 8, vous aimez. Deuxièmement, croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Il y a 2 points. Vous l'aimez. Vous croyez en lui. Et l'essentiel, pendant le temps de l'absence du Seigneur, c'est déjà de l'aimer. L'aimer dans cette pensée que lui nous a aimé le premier. Puisqu'il est venu ici-bas, et qu'il est allé jusqu'à la mort même de la croix. Vous l'aimez. Et l'évangile qui vous a été annoncé, vous le croyez. Il est fermement inscrit dans vos cœurs, dans vos âmes. Vous croyez, et croyant en lui, que se passe-t-il alors? même sans l'avoir vu de vos yeux de chair, le fait de l'aimer, le fait de croire, c'est à la fois ce couple fait de la foi et de l'amour. Alors, il y a bien sûr, et c'est souvent lié dans les épîtres, surtout celles de Paul, il y a l'espérance. Foi, espérance, amour sont trois choses qui sont liées. Mais il y a en plus la joie. Vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Effectivement, de nos yeux de chair, nous ne voyons pas Jésus. Nous aimerions quelquefois le voir pour lui poser des questions directement, pour lui dire nos doutes, pour lui dire nos interrogations, pour lui dire ce qui ne va pas de façon plus directe, plus proche. L'essentiel, c'est déjà de croire en sa personne, de croire en son amour, de l'aimer, et alors la joie peut remplir les cœurs. L'apôtre Jean, dans son épître, va ajouter quelque chose. Dans cette première épître, nous avons donc lu au chapitre 3 ceci. Verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Voilà une chose que nous savons, que nous avons reçue, et un don qui nous est accordé. Vous êtes maintenant enfants de Dieu. » Ce que nous savons, c'est que par l'œuvre de Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et il va ajouter, « Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Alors, il y a des choses que nous ne savons pas encore. Ce que nous savons maintenant, c'est que nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais ce que nous ne savons pas, c'est ceci. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous ne savons pas exactement ce que, une fois que nous serons arrivés à la maison du Père, nous serons. Dans quel état nous serons? Ce sera l'homme spirituel, nos corps seront glorieux, spirituels, mais tout cela nous dépasse. Nous le sentons bien, ce que nous serons, voilà, ce n'est pas encore manifesté, nous ne le savons pas encore. Mais il y a des choses que nous savons. Nous savons que quand lui, Christ, sera manifesté, c'est-à-dire quand il sera venu chercher les siens, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. Il y a deux choses que nous ne savons pas ce que nous serons. Nous ne savons pas sous quelle forme nous serons au ciel. Nous savons que nous serons au ciel, mais nous avons eu deux choses. Premièrement, que nous le verrons comme il est. Le ciel, ce sera de contempler le Seigneur face à face. Nous l'avons chanté dans la dernière strophe de Cantique, « Te voir Jésus face à face ». Quand nous serons donc dans le ciel, il vient donc dire ceci, « Nous le verrons comme il est, plus que cela ». Nous ne savons pas exactement dans quel état nous serons, mais nous lui serons faits semblables. Nous serons semblables à notre Seigneur, nous serons semblables à lui. Ce qui nous permettra dans le ciel et pendant l'éternité tout entière de louer Dieu, de louer le Seigneur comme il convient. Il y a donc des choses que nous ne savons pas encore, il faut les laisser pour plus tard. Il y en a que nous savons déjà. Nous verrons Jésus face à face. Nous lui serons rendus semblables. Quelle espérance que celle du chrétien. Elle était suffisante pour ces chrétiens hébreux auxquels l'apôtre Pierre s'adressait, pour qu'ils puissent se réjouir d'une joie, et une joie beaucoup plus excellente que celle des disciples quand ils suivaient Jésus, parce que cette joie, quand ils virent le Seigneur, ils se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur, évangile de Jean, tandis qu'ici, l'apôtre Pierre parle d'une joie ineffable et glorieuse, ce qui veut dire que cette joie, elle est inexprimable. On sent d'ailleurs, quand on lit la parole, qu'on lit en particulier un évangile, ce que Jésus a été, ce qu'il a fait, la façon dont il parlait aux âmes, la façon dont il savait les approcher, dont il savait les écouter, dont il savait les rassurer, dont il savait les guérir, les consoler. On sent bien qu'il y avait là pour ces âmes quelque chose d'ineffable. Il ne savait pas comment répondre à un tel amour du Seigneur, eh bien, nous nous réjouissons d'une joie ineffable, croyant en lui, quoi que vous ne voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est occupée d'un Christ qui maintenant est dans la gloire. Une joie glorieuse. Et pourtant, ceci concernait essentiellement, surtout dans l'épître de Pierre, les regards de notre corps, la vue charnelle, la vue de nos yeux, la vue de nos yeux. Il y a un autre regard, et celui-là, nous le possédons déjà. Et ce regard, c'est le regard de la foi. La foi discerne l'invisible. Nous avons un cantique qui l'exprime aussi. La foi discerne l'invisible. Et la foi, nous l'avons déjà pour tous ceux qui ont cru en Christ, ce qui permet d'exprimer à l'apôtre qui écrit l'épître aux Hébreux, dans ce second chapitre, dans les versets que nous avons lus au chapitre 2, verset 9, « Nous voyons Jésus, c'est le regard de la foi, nous ne le voyons pas physiquement, mais le regard de la foi le voit là où il est, c'est-à-dire nous voyons Jésus, qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur, en sorte que par la grâce de Dieu, il goûta la mort pour tout. Il est déjà, après la mort, dont il a goûté l'amertume, il est maintenant glorifié, et nous voyons donc Jésus, alors, couronné de gloire et d'honneur. Le regard de notre foi en sondant les Écritures. Sonder les Écritures, c'est les lire l'Écriture, un passage, une page de l'Écriture, la lire lentement, la lire soigneusement, la méditer, la laisser entrer au profond de nos cœurs et de nos âmes, la laisser produire cet effet d'un contact, d'une rencontre avec Jésus. Lire la parole et en particulier tout ce qui nous parle de la personne de notre Seigneur, c'est nous mettre en contact avec lui. C'est vivre un instant privilégié où nous le sentons proche, où nous sentons que tout ce qui est de la terre prend de la distance, et les soucis de la terre et les épreuves de la terre prennent leur vraie valeur relative aux choses de la terre, celles qui passent, qui ne sont que pour un temps. Et c'est cela alors qui nous permet de voir Jésus comme il est. Pour illustrer cela, ce fait que nous trouvons dans ces trois passages, nous pouvons prendre deux exemples que je dirais assez rapidement, sans vouloir trop développer, dans la vie de deux hommes, dont la vie, bien qu'il s'agisse d'hommes de l'Ancien Testament, dont la vie a été transformée à partir du jour, du moment où ils ont vu, on ne voyait pas Jésus à cette époque-là, mais ils ont pu dire, ils l'ont exprimé, qu'ils ont vu Dieu, qu'ils ont vu Dieu. Et cela a transformé leur vie. Le premier, c'est Jacob, le second, c'est Job. C'est juste une ou deux remarques concernant des moments particuliers de ces deux vies. Concernant Jacob, nous savons que la vie de Jacob est émaillée de très nombreuses circonstances qui ne sont pas tellement à sa gloire, mais qu'il y a eu dans sa vie trois dates, si l'on peut dire, fatidiques, qui sont remarquables. C'est que c'est au cours de trois nuits mémorables dans la vie de ce patriarche qu'il a découvert Dieu. Le premier, nous le savons, c'est au chapitre 28, le second au chapitre 32 de la Genèse, le troisième, c'est au chapitre 46. C'est simplement trois passages que j'aimerais lire pour simplement faire une ou deux remarques sur cette vie de Jacob, qui éclaire un peu ceci, voir Dieu, voir Jésus. Au chapitre 28 du livre de la Genèse, Jacob donc a trompé son père. Il a déjà trompé son frère, il lui a volé déjà son droit d'aînesse, puis il va tromper son père, et pour recevoir d'Isaac la bénédiction, il va se faire passé comme étant son frère Ésaü. Et il y a là, qui se passe entre la mère, Rebecca, et Jacob, une histoire qui n'est pas du tout à leur honneur. Et Jacob, ayant reçu de la part d'Isaac la bénédiction qu'il a ravie, qu'il a volée, si l'on peut dire, est obligé ensuite de quitter la maison parce que son frère veut le faire mourir. Et au verset 10 de ce chapitre 28, nous voyons Jacob qui sort de Beersheba, il sortit de Beersheba, s'en alla à Charan, rencontra un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit des pierres du lieu et s'en fit un chevet, et se coucha en ce lieu-là. Et il songea. Et voici une échelle dressée sur la terre, son sommet touchait les cieux. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Et voici l'Éternel se tenait sur elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. » La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, et à ta semence. Et ta semence sera comme la poussière de la terre. Et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient et au Nord et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta semence. Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans cette terre-ci, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'aie fait ce que je t'ai dit. Et Jacob se réveilla de son sommeil, et il dit, certainement l'Éternel est dans ce lieu. Et moi je ne le savais pas, et il eut peur, et dit que ce lieu-ci est terrible. Ce n'est autre chose que la maison de Dieu, et c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, prit la pierre dont il avait fait son chevet, la dressa en stèle, versa de l'huile sur son sommet, et il appela le nom de ce lieu-là Bethel, mais premièrement, le nom de la ville était Luz, et Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde dans ce chemin où je marche, et qu'il me donne du pain à manger, un vêtement pour me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon père, l'Éternel sera mon Dieu, et cette pierre que j'ai dressée en stèle sera la maison de Dieu, et de tout ce que tu me donneras, je t'en donnerai la dîme. » On peut dire que cette nuit-là, cette première nuit, cette première rencontre avec Dieu, c'est la rencontre de Dieu avec un supplanteur. Il a supplanté son frère, il a supplanté, il a ravi la bénédiction auprès de son père, c'est dans cet état d'esprit qu'il se trouve là. Hélas, c'est l'état d'esprit qu'il va garder pendant les 20 années qu'il va passer chez Laban. Il va garder ce même état d'esprit-là, le supplanteur. Il pensait que Dieu était simplement présent dans la maison de son père. Il pensait que Dieu était là autour de la tente. Il l'avait été autour de la tente d'Abraham. Il l'était aussi autour de la tente d'Isaac, son père. Mais Dieu là, sur un chemin désert, mais Dieu là, en pleine nuit. Dieu est donc là aussi, Dieu est donc là partout. C'est la grande surprise de Jacob. Il s'attendait à trouver n'importe qui, mais pas Dieu. Et voilà que dans ce songe, donc, l'échelle est là, les anges montent et descendent, et Dieu lui-même lui adresse la parole, Dieu lui parle. Il lui parle, il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de ses pères. Et voudrait bien être celui de Jacob, il mettra longtemps pour l'être. Et il lui offre une bénédiction extraordinaire. « Je te bénirai, je serai avec toi. » Tu es dans un mauvais chemin, mais quoi qu'il en soit, je serai avec toi. Alors, c'est là le supplanteur. Jacob fait un marché avec Dieu. « Ah, tu veux me bénir, c'est bien. » Écoute, si tu me bénis, si tu m'accompagnes, si tu m'accordes ceci, cela, eh bien tu seras mon Dieu. À ce titre-là, tu pourras l'être, et en retour, je te donnerai la dîme de tout ce que j'aurai. C'est l'homme des marchés. Mais il va aller chez un autre, chez Laban, qui est encore plus rusé que lui. Et pendant ces 20 années, il passe chez Laban, le nom de Dieu n'intervient jamais. Il a oublié la promesse qu'il a faite à Dieu. Il vit là, marchandant pour les brebis, Il est là, comptable, avec Laban, de celui qui profitera davantage jusqu'au jour où, au bout de 20 années, ayant reçu Léa comme première épouse et Rachel comme seconde épouse, ayant un fils de l'épouse bien-aimée, enfin de l'épouse bien-aimée de Rachel, Joseph. Quand Joseph est donné, alors il ne reste plus. Plus tard, il retourne au pays des pères. 20 années de perdu, 20 années pendant lesquelles il n'a pas parlé de Dieu, ni à ses épouses, ni à ses enfants. 20 années pendant lesquelles il a perdu son temps. Il a perdu son temps. Il n'a pas eu la conscience exercée concernant toute cette famille que Dieu, dans sa riche grâce, lui avait donnée. Et il revient. Mais au moment où il va entrer en Canaan, au cours d'une seconde nuit, Dieu l'arrête. Dieu l'arrête. C'est la nuit de Péniel. C'est le chapitre 32. Ici, dans ce chapitre 28, c'est la nuit d'un supplanteur. Au chapitre 32, tout va changer. Au chapitre 32, il pense rentrer donc en terre de Canaan. Le voilà arrivé à la frontière de Canaan. Alors, il y a un gué à franchir. Alors, il a fait franchir ce gué et entrer sur la terre de Canaan. D'abord, tout son troupeau. Et puis, il choisit. Ensuite, Léa et ses propres enfants. Et puis, en tout dernier, mieux protégé, Rachel, l'épouse bien-aimée, et le petit Joseph. Et puis il retourne, et voilà que quelqu'un est là. La grande crainte de Jacob, au cours de cette nuit-là, était de rencontrer Ésaü, car il savait que Ésaü venait avec sa petite armée, et qu'il était beaucoup plus fort que lui. Ce n'est pas Ésaü qui vient au-devant de lui. C'est quelqu'un d'autre qu'il ne connaît pas. Chapitre 32. D'abord donc, Jacob alla son chemin. Au premier verset, les anges de Dieu le rencontrèrent. Jacob dit quand il les vit, c'est l'armée de Dieu. Et il appela ce nom-là Mahanaïm. C'est donc deux armées, en quelque sorte. Dieu envoie déjà en avant-garde, si l'on peut dire, alors que lui craignait de rencontrer Ésaü. Dieu lui envoie en avant-garde deux bandes d'anges qui, en quelque sorte, l'accueillent sur cette terre de Canaan. Entrant sur la terre de Canaan, Dieu est à nouveau là. Dieu envoie ses messagers, Dieu envoie ses deux troupes d'anges pour accueillir cet enfant qui avait quitté le pays et qui revient. Mais on n'entre pas comme cela en Canaan. Il a pris toutes les dispositions dont parler dans les versets qui suivent, et nous arrivons au verset 24. Et Jacob resta seul. Et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et lorsqu'il vit qu'il ne prévalait pas sur lui, il toucha l'emboîture de sa hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob fut luxée comme il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Laisse-moi aller, car l'aurore se lève, c'est l'ange. Et il dit, c'est Jacob, je ne te laisserai point aller sans que tu m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Il dit, Jacob, c'est-à-dire le supplanteur. Il dit, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël, la note nous dit, prince de Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. Et Jacob demanda et dit, je te prie, déclare-moi ton nom. Et il dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Et Jacob appela le nom de ce lieu-là Péniel, car j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été délivrée. Voilà la nuit essentielle, la nuit la plus mémorable de la vie de Jacob. Celle dans laquelle il a rencontré Dieu. Il pensait rencontrer Ésaü, c'est Dieu lui-même qu'il a rencontré, sous cette forme assez étrange d'un homme qu'il ne reconnaît pas, avec lequel il lutte. Et quand nous savons, comme nous vient de le dire donc la fin de ce récit, qui est celui qui lutte contre Jacob? On peut s'interroger, comment Dieu qui lutte contre Jacob et qui ne peut pas avoir le dessus, une lutte qui dure probablement une nuit entière, et Dieu qui ne peut pas prévaloir, c'est le combat, si l'on peut dire, de l'épée de Dieu ou de l'esprit de Dieu et de la chair de Jacob, l'homme. Jacob, la chair qui agite en lui. Jacob, le supplanteur. Jacob qui cherche à extorquer. Jacob qui cherche à marchander. De cela, Dieu ne peut rien faire. Alors, en un instant, en un court moment, il faut mettre la chair, l'homme charnel, de côté. Et c'est alors ce coup imparable de l'épée qui va toucher l'emboîture de la hanche, et voilà un Jacob qui désormais boitera sur sa hanche. Et comme on a pu le dire, Jacob n'a jamais si bien marché que le jour où il s'est mis à boiter. Dieu vient en quelque sorte de le frapper là, dans sa marche, qui ne correspondait pas à ce que doit être la marche d'un fils de croyant. Pour en faire un croyant, il fallait l'arrêter, il fallait la briser, briser cette chair. C'est ce que Dieu vient faire là, dans ce geste qui est un geste symbolique, nous le comprenons bien, mais Jacob a bien boité à partir de ce moment-là. Et alors, Jacob, sachant à ce moment-là que c'est Dieu qui lui parle, que c'est contre Dieu qu'il luttait lui-même, il lui demande à ce moment-là d'être béni. Il faudrait aller à trouver le prophète Osée, au chapitre 12, pour trouver que il pleura, il supplia. Il y eut à ce moment-là un travail de conscience profond chez Jacob. Un travail de conscience profond. Il pleura, il supplia pour recevoir de la part de Dieu la bénédiction. Il a pris conscience qu'il a désobéi à Dieu. Il a pris conscience qu'il a trompé tout le monde et que Dieu le cherche. Que Dieu le veut, et dans cette nuit-là, quand l'aurore se lève, Jacob boite sur sa hanche, mais l'ancien Jacob a disparu. Il est mort. Celui qui se lève et qui désormais va marcher a changé de nom. Il s'appelle Prince de Dieu. La première nuit avait été celle du supplanteur, cette seconde nuit, celle de Péniel. Et celle du prince de Dieu. Il va être désormais prince de Dieu. Il va connaître, restant dans le pays pendant un certain temps, dans le pays de Canaan, il va connaître épreuve sur épreuve. Dans le chemin, en arrivant vers Bethléem, Rachel va lui donner un second enfant, ce sera Benjamin. Puis sur le chemin, près de Bethléem, elle va mourir sur le chemin. Et puis il va rentrer dans le pays, ça va être la famine. Et puis avant la famine, il va y avoir les frères qui sont jaloux de ce petit Joseph qui a grandi jusqu'à 17 ans, 15 à 17 ans à peu près, donc 17 années, il avait déjà 7-8 ans ici, une dizaine d'années. Et alors à ce moment-là, il va l'envoyer au champ pour voir les frères jaloux de lui. Nous connaissons l'histoire de la tunique bigarrée que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Il va être vendu à des marchands madianites, il va être fait esclave en Égypte, puis au moment de la famine, à cause de sa fidélité, belle histoire que celle de Joseph, il va devenir le second après le pharaon là-bas. Et ce sera la famine en Canaan. Alors le père va envoyer ses enfants, et nous connaissons toute cette histoire du mensonge, de la tunique qu'il rapporte, la tunique ensanglantée. Rachel est morte, il croit que son fils Joseph est mort aussi, on va garder donc un des enfants là-bas en Égypte, et puis on va réclamer pour avoir encore du blé que Benjamin s'y rende aussi, et il a la perspective de perdre encore Benjamin, épreuve sur épreuve, jusqu'au moment où Joseph, se révélant à ses frères, envoie des chariots pour chercher le père. Il s'est révélé comme étant Joseph, leur frère, que Dieu a béni dans ce pays étranger. Et il désire revoir son père. Et Jacob, alors, reçoit cette invitation de la part de Joseph de venir en Égypte. Et il peut être dit, alors c'est au chapitre 46, que nous allons assister à une troisième nuit. Au chapitre 46, Israël partit, et tout ce qui était à lui, il vint à Beer-Sheba, et offrit des sacrifices de menu bétail au Dieu de son père Isaac. Et Dieu parla à Israël dans les visions de la nuit, et dit, « Jacob, Jacob !» Et il dit, « Me voici !» Et il dit, « Moi, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car je t'y ferai devenir une grande nation. Moi, je descendrai avec toi en Égypte. Moi, je t'en ferai aussi certainement remonter. Et Joseph mettra sa main sur tes yeux. » Et Jacob se leva de Beer-Sheba. C'est une scène assez émouvante. Jacob prend conscience, et tous les chapitres qui suivent le montrent, qu'il a perdu toute une partie de sa vie, qu'il a découvert Dieu, mais qu'il l'a découvert bien tard, qu'il n'a pas eu le temps ni l'occasion d'en parler à ses enfants comme il aurait dû le faire, qu'il a perdu l'épouse bien-aimée sans lui avoir beaucoup révélé qui était Dieu, et que quand Rachel a désiré avoir un second enfant, déjà le premier d'ailleurs, Joseph, un premier enfant, il a fallu que toute seule elle aille prier Dieu. C'est quelque chose d'étonnant que cette place-là de Rachel, seule épouse solitaire, épouse sans enfant, épouse à laquelle le mari ne dit rien. Frères et sœurs, les contacts entre époux et épouse dans nos foyers sont quelque chose d'essentiel. Marcher non seulement dans un même sentier, mais y marcher la main dans la main. Ne pas avoir entre époux et épouse des non-dits à propos du couple, à propos des enfants. Ce sont des points essentiels. Avoir toujours ces moments de communion où l'on se retrouve pour marcher du même pas, pour décider des choses ensemble. Cela, Jacob ne l'a pas connu avec Rachel. Quand elle a eu exprimé sa souffrance à Dieu, elle a été seule. Et Jacob n'a été d'aucune utilité pour elle. C'est triste cela. Mais Jacob a changé. Jacob a totalement changé. Je le voilà arrivé à Beer-Sheba. C'est tout le sud de son pays. Beer-Sheba, c'est le lieu de toute son enfance. Beer-Sheba, c'est la frontière du pays. Et devant ses yeux, au cours de cette nuit, défile toute cette enfance. Tout ce qu'il a fait là. Les moments heureux passés avec sa mère Rebecca, les moments aussi dans lesquels il a trompé son père, il a trompé son frère. Mais c'est la limite du pays, il ne veut plus en sortir. Et Dieu vient alors le trouver cette nuit-là. Jacob, Israël, maintenant que tu me connais, maintenant que tu es prince de Dieu, j'ai encore une mission à te confier. Mais tu vois, voyageur, tu as été toute ta vie. Voyageur, tu seras jusqu'à la fin. Quitte Beer-Sheba. Va en Égypte. Va retrouver là-bas le bien-aimé Joseph, ton enfant bien-aimé Joseph. Et je t'envoie, et non seulement comme prince de Dieu, pour y rendre un témoignage à la grandeur et à la bonté de Dieu, mais pour y être, et c'est là la troisième étape de cette vie de Jacob. Il va être un prophète. Lui qui avait vraiment démérité pendant toute une partie de sa vie. Cette nuit de Péniel l'a transformé. Les années qu'il a passées là en Canaan, solitaire puisqu'ayant perdu l'épouse bien-aimée, il a été amené à réfléchir, à condamner ce qui n'avait pas été dans sa propre vie, à faire en quelque sorte la lumière avec Dieu. Et de s'attendre désormais à Dieu et à lui seul. Il est là au cours de cette nuit à Beer-Sheba, il attend. Et voilà que Dieu, dans un son, vient à nouveau lui parler. Descends, descends. Là-bas, désormais, c'est bien la fin de ta vie, mais tu vas m'être utile. Tu vas être utile à quelque chose, à ta famille que tu n'as pas su élever. Et pour ceux qui en témoignage, pour ces incrédules qui habitent ce pays là-bas. Et c'est là-bas, dans ce pays, qu'il va y avoir les belles prophéties concernant les deux enfants de Joseph, Éphraïm et Manassé, les deux mains qui sont croisées sur les têtes, l'aîné donc recevant la plus petite bénédiction et le second recevant la plus grande bénédiction, Manassé et Ephraïm, eh bien, Jacob se souvient, quand j'ai reçu la bénédiction de mon père, Dieu aurait pu faire que mon père aussi, Isaac, croisant ses mains, je reçoive la bénédiction que Dieu voulait pour moi. Cette bénédiction, je l'ai estorquée. Et quand Joseph le voit croisant ainsi ses mains, il lui dit, non, l'aîné, c'est pas celui-là. L'aîné, c'est l'autre. Je le sais, mon fils, je le sais. J'ai appris de Dieu. Et là-bas, alors, les prophéties concernant alors toute l'histoire de ces 12 enfants, toute l'histoire du peuple d'Israël. Et on trouve ainsi, donc, à la fin de la vie de Jacob, toute cette belle prophétie qui est donnée. Mais n'allongeons pas. Simplement un mot sur Job, chapitre 19. Cette transformation, donc, d'un homme, à partir du moment où il a vu Dieu. Dans le livre de Job, au chapitre 19, le verset 25. « Et moi, je sais que mon Rédempteur est vivant, et que le dernier, il sera debout sur la terre. Et après ma peau, ceci sera détruit, et de ma chair, je verrai Dieu, que je verrai, moi, pour moi-même, et mes yeux le verront, et non un autre. » Job est au creux de la souffrance et de l'épreuve. Il est dans le creuset, on peut dire, de l'épreuve, là. Il a tout perdu. Il a perdu tous ses biens, tous ses enfants. Seule sa femme est encore à ses côtés. Mais sa femme ne lui est pas d'une grande aide dans ce moment-là. Et pourtant, Dieu la lui conserve pour que par elle, il puisse avoir une seconde famille. Telle est la bénédiction que Dieu voudra pour Job à la fin. Il est là et les amis, en réalité, s'avèrent comme étant de faux amis. Pourtant, ils sont droits. Pourtant, ce sont des hommes sages, mais ils font, en quelque sorte, ils donnent à l'épreuve de Job qu'ils ne comprennent pas. Ils donnent un mauvais sens à cette épreuve. Ils croient que l'épreuve envoyée par Dieu est toujours une épreuve punitive. Et c'est une grande erreur. L'épreuve dans une vie n'est pas toujours une épreuve punitive. L'épreuve peut être, et elle est bien souvent, une épreuve formative. Lisons l'Épître aux Hébreux à ce sujet, où nous avons donc toute l'explication de Dieu qui s'occupe des siens comme un bon éducateur. Et il s'agissait pour Job, en réalité, de quelqu'un qui s'estimait comme un propre juste et qui pensait beaucoup à sa famille, mais qui ne pensait pas beaucoup à lui-même, eh bien, il s'agissait de faire un retour sur lui-même. Et là, au fort de l'épreuve, nous avons cette lumière qui jaillit au milieu de la nuit de Job. Le recours, ce à quoi il s'accroche, c'est qu'un jour viendra où il verra Dieu. Il le verra face à face. Il le verra lui-même. Il parle là, en quelque sorte, de cette vision de Dieu. Après sa mort, il y aura un jour de résurrection, il y aura un jour de face à face avec Dieu. De moi-même, je le verrai, et je le verrai de ma chair, je verrai le Dieu vivant, je verrai Dieu, je le verrai pour moi-même, mes yeux le verront, non pas un autre. Mais cela, c'est une espérance d'avenir. Et il retombe dans les chapitres qui suivent, dans cette épreuve qui l'a bouleversé, jusqu'au moment où un quatrième ami, les trois premiers n'ayant pas su le consoler, un quatrième ami qui est Élihu, va venir se mettre devant lui à son niveau, lui parler de cœur à cœur, et de lui parler comme on peut parler de Dieu, et de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, de la bonté de Dieu, à une âme qui est dans le deuil, à une âme qui est oppressée, à une âme qui ne s'en sort pas de ses difficultés. Et alors, ça va être une révélation pour lui. Ensuite, c'est Dieu qui se montre, et c'est Dieu qui vient lui parler. Et nous arrivons alors au dernier chapitre, 42, où nous avons alors ces paroles. Ce n'est plus une espérance que Job a devant lui, une vision qu'il aura un jour de voir Dieu de ses propres yeux, mais c'est ceci. chapitre 42. « Je sais que tu peux tout. » Alors Job répondit à l'Éternel et dit « Je sais que tu peux tout, qu'aucun dessein n'est trop difficile pour toi. Qui est celui qui, sans connaissance, voile le conseil ? J'ai donc parlé sans comprendre de choses trop merveilleuses pour moi que je ne connaissais pas. Écoute, je te prie et je parlerai, je t'interrogerai, et toi, instruis-moi. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi j'ai horreur de moi, et je me repens dans la poussière et dans la cendre. Il y a des choses importantes qui sont dites là. À la fin de cette épreuve, Job apprend à connaître Dieu. À travers l'épreuve, à travers la souffrance, il a fait quelque chose, l'expérience suivante, d'avoir trouvé quelqu'un qu'il connaissait, dont il avait entendu parler. La parole peut être, pour nous quelquefois, un livre que l'on entend. On l'entend dans la famille, les enfants l'entendent lire par les parents. On l'entend étant ici, dans un local, lire la parole et méditer. On entend, on écoute, on entend. Il y a dans nos vies quelque chose de plus nécessaire que d'entendre, c'est de voir. Et comme nous le disions, il y a un moment pour voir vraiment et avoir ce contact avec Dieu. Il faut des moments privilégiés, mais une rencontre privée. Être là face à face avec la parole de Dieu. Prendre le temps de laisser tout de nos vies disparaître pour un moment. Pour être là en face de Dieu, pour écouter ce qu'il veut nous dire aujourd'hui, en ce moment-là, par sa parole. C'est l'expérience que Job vient de faire grâce à la présence de cet ami qui l'a placé devant Dieu. Et ensuite, la voix de Dieu s'est fait entendre. Et maintenant, il peut dire à Dieu, « Je te connaissais, j'avais entendu parler de toi. » Il a même dit des choses extraordinaires en disant que « Je verrai Dieu face à face concernant l'avenir. » Mais c'était encore une espérance lointaine. Mais maintenant, il est là, face à Dieu. Il est là dans tout ce qu'est son être. J'ai horreur de moi. Je me repens dans la poussière et dans la cendre. Il est là dans la confession totale de son péché. Il s'estimait juste, il priait beaucoup pour sa famille, il priait beaucoup pour ses enfants. Pour lui, il pensait être juste. Il offrait bien des sacrifices à Dieu. Il était devenu en quelque sorte un peu formaliste, mais il n'était pas affranchi de lui-même. Et c'est cela le point essentiel, être affranchi de soi-même. Le peuple d'Israël n'a jamais pu le faire pendant toute son histoire. Il a toujours été fier de lui-même. Job a fait cette expérience-là. J'avais entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. J'ai horreur de moi. Mais j'ai vu Dieu. Et je sais que Dieu, maintenant, peut me bénir, que Dieu peut s'occuper de moi. C'est là l'expérience qu'a faite Job. Une rencontre avec Dieu. J'arrête en lisant simplement ce passage que nous connaissons bien dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5. Simplement ceci. Quand il est question de Moïse, au verset 13, Moïse mettait un voile sur sa face pour que les fils d'Israël n'arrestassent pas leurs yeux sur la consommation de ce qui devait prendre fin. Il y avait eu pour un petit moment, quand Moïse était descendu de la montagne, un rayonnement de gloire sur Moïse. Mais cette gloire était pour un moment seulement. Elle devait passer. Alors Moïse mettait un voile sur sa face. Nous pouvons avoir quelquefois comme un rayonnement, un moment dont on a joui, une rencontre fraternelle, une rencontre entre jeunes, une rencontre dans l'assemblée, un moment passé avec Dieu où l'on se réjouit, une gloire passagère, une joie passagère. Moïse, sachant que cela n'avait pas grande valeur parce que cette gloire-là devait s'effacer, mettait un voile sur sa face. Mais leur entendement ont été endurcis, car jusqu'à aujourd'hui, dans la lecture de l'Ancienne Alliance, donc de la loi, de l'Ancien Testament, ce même voile demeure sur le peuple d'Israël ici, sans être levé, lequel prend fin en Christ. Mais jusqu'à aujourd'hui, lorsque Moïse est lu, le voile demeure sur leur cœur. Alors, le voile sur leurs yeux, voile sur leur conscience, et le voile sur le cœur. Mais quand il se tournera, quand ce cœur se tournera vers le Seigneur, le voile sera ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit, mais là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en Esprit. Il y a aussi cette remarque nécessaire, là. Le peuple d'Israël, aujourd'hui encore, ne reconnaît pas Christ, ne jouit pas de la personne de Christ. Il est attaché à des formes, et l'on risque aussi d'être attaché à des formes dans nos familles. Il y a un moment où on s'occupe des choses de Dieu, puis après, on a rempli un devoir et l'on mène sa propre vie. Les réunions d'assemblée, on vient de façon régulière à des moments précis et l'on en jouit. Et puis on reprend le train-train journalier. Ce sont comme autant quelquefois de voiles. La vie est en quelque sorte coupée en des moments où l'on se sent bien près du Seigneur et d'autres moments où l'on vit sa vie. Et il faut s'en garder. On en revient toujours à ceci. Il faut avoir aussi chacun, et surtout pour des parents chrétiens, de façon personnelle, ces moments de rencontre avec Dieu, ces moments de lecture personnelle de la parole, ces moments de méditation personnelle de la parole, ces moments où on laisse le Seigneur s'approcher de notre cœur et de notre âme, où on lui laisse le temps de nous parler par la parole, et où ensuite on lui parle à notre tour par la prière. Et de tels moments sont des moments où les voiles s'estompent. Et quand tous ces voiles sont estompés, il peut y avoir des moments de jouissance de la personne du Seigneur et de sa proximité qui correspondent à ce qui est donné là. Rien ne nous empêche actuellement, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur. Du côté du Seigneur, il n'y a pas de voile. L'essentiel, c'est de prendre le temps. Prendre le temps de donner à notre christianisme, de donner à notre vie de croyant sa vraie réalité dans la proximité du Seigneur. Et nous pouvons déjà, dans ces circonstances-là, malgré les difficultés, les épreuves et tout ce que nous pouvons rencontrer dans un monde difficile à vivre, il peut y avoir, même si nos assemblées sont troublées par tant de maux divers, ces moments de rencontre avec Dieu, où les voiles s'effacent les uns après les autres, et où la personne du Seigneur prend sa réelle grandeur et sa réelle beauté devant nous, le contemplant face à face découverte, pour un petit moment, et cela donne de la force pour le chemin, quel qu'il soit.
Dans ce désert, je...